Cher Sangha, nous sommes le 5 avril, déjà. Le quart de l'année a passé. Donc nous sommes le 5 avril 2014 à la Villa Saint-Martin, à Pierrefonds, Québec. Deuxième jour de la retraite. Comment devenir un être éveillé? Comme je vous l'ai annoncé hier, je suis de passage et très heureux d'être au Québec, très heureux d'être à Montréal. Je repars lundi pour 2 mois pour les États-Unis et je vous revois au mois de juin. Ça fait plus de 4 mois que je suis parti et je suis très heureux d'être de retour et de retrouver tous mes amis. Comment ça va? Hier, je vous avais demandé de bien vouloir vous donner un peu de temps avec le questionnaire. Ce matin, Marielle a été très gentille de m'apporter les réponses que vous avez données, que vous vous êtes données. Et en les lisant, il y a une chanson qui m'est revenue. C'est comme si ce climat ou cette température, que je commence à me réacclimater. Et donc, il y a ces graines de francophonie et de francisation qui me reviennent lentement, peu à peu, ou très fortement, en prévision. C'est comme ces bourgeons au... Pas ces bourgeons, c'est quoi ces trucs qui sortent de la neige, les personnages, ces bulbes qui sortent. Alors ce matin, la bulbe qui est sortie, c'est la chanson « Comment ça va ?». Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on pourrait se la rappeler. C'est une chanson que je trouve qui est très joyeuse et qui est très compatible et en ligne avec la pratique que nous faisons. Je ne sais pas qui voudrait la diriger. Ou on peut demander à YouTube. Merci de m'avoir rappelé cette belle chanson qui a sommeillé un peu trop longtemps en moi et qui s'est réveillée avec le printemps de ce matin. Comment ça va? Pourquoi est-ce que ça m'est revenu? Parce que c'est ce que je me suis demandé et c'est ce que je vous ai aussi demandé en vous demandant de revoir ou bien de compléter le questionnaire. C'est aussi une forme de salutation qu'on se fait lorsqu'on se rencontre. Bonjour, comment ça va? Et tout de suite, nous répondons ça va, ou bien ça va bien. Mais c'est une réponse que je trouve qui est un peu trop rapide et trop automatique. Alors, la pratique de la pleine conscience consiste à exactement se demander cela, comment ça va, à le demander et à se le demander aussi souvent que nous le pouvons. Faire le bilan, savoir exactement ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Et c'est cela, la pleine conscience. Alors, nous sommes ici dans une retraite de pleine conscience. Et pour moi, c'est une pratique, et c'est cela la pratique, comment ça va. Et j'aime beaucoup la réponse, c'est avec un peu d'amour, ça ira mieux. Et c'est ce que nous voulons aussi nous offrir. chacun pour soi. Je veux me donner, je veux me rappeler que je mérite mon amour et que j'oublie trop souvent de me le donner. Alors lorsque je me pose la question « comment ça va ?» et que je me souviens que la réponse qui est dans cette chanson, c'est « avec un peu d'amour, ça ira mieux » et que je n'ai personne autour de moi, ou bien je ne sais à qui je peux m'attendre de le recevoir, alors pourquoi ne pas me le donner moi-même ? Alors c'est cela ma pratique et c'est cela que je voudrais, que je voulais nous rappeler et que je voulais aussi vous partager. Comment ça va ? C'est une pratique d'arrêt. Hier, je vous avais parlé de la pratique d'arrêt. Alors lorsque nous sommes conscients et que nous posons une question ou que nous nous posons une question ou que nous nous arrêtons, la différence entre un « comment ça va » casual, banal, inconscient, automatique, un bruit et une vraie question « comment ça va ?» On doit être là, on doit être présent. C'est comme le son de la cloche. Lorsque nous écoutons le son de la cloche, nous nous arrêtons et nous y mettons tout notre esprit et notre corps ensemble avec le son de la cloche. Quand nous posons une question, c'est de la même façon que nous le faisons avec tout notre cœur et tout notre être, parce que nous sommes vraiment intéressés. Nous ne le faisons pas juste parce que c'est une habitude, nous ne le faisons pas non plus parce que c'est la chose à faire. Nous le faisons parce que nous sommes intéressés, parce que nous... Je pense que intéressés, c'est... ça décrit bien. Est-ce que vous... Oui, non. Donc c'est une pratique d'arrêt. Une pratique d'arrêt qui nous demande ou qui nous permet de pouvoir être là, présent, ensemble, corps et esprit, recevoir ou émettre la question. Tu fais aussi partie de la pratique que nous appelons pratique de méditation de pleine conscience. Il y a l'arrêt pour être là, poser la question. Et la réponse à la question, c'est la deuxième partie de notre pratique, qui est la pratique de la vision. Nous nous arrêtons, et lorsque nous nous arrêtons, nous pouvons voir et comprendre ce qui est en train de se passer. Voir et comprendre en répondant à ces questions. Comment ça va physiquement? Physiquement, c'est déjà toute une pratique, parce que je nous reconnais, je vous reconnais, je me reconnais dans ma façon de vivre. On s'anesthésie et on ne s'occupe pas de son corps et on ne sait vraiment pas ce qui se passe dans notre corps jusqu'à ce qu'il décide de nous lâcher. Et même là, et je le sais, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis devant vous, mais je suis sous anesthésie. Analgésique. Alors je suis drogué. Je ne sais pas ce que je dis. C'est vrai. J'ai 4 côtes brisées et ça me fait très mal. Et c'est pour ça que je dois prendre des médicaments antidouleurs pour pouvoir être ici présent. Alors, je fais taire mon corps pour pouvoir vous dire que ça va bien et pour pouvoir vous parler. Alors donc, comment ça va physiquement? C'est une pratique que nous devons aussi pouvoir nous donner comme cadeau. Et je viens d'un long séjour au Vietnam, et une des pratiques que j'aime beaucoup au Vietnam, vous savez c'est quoi? Massage corporel. Est-ce que nous avons des massothérapeutes ici? Donc, je me permets, parce que ça coûte peu cher, de me faire des massages corporels 3-4 fois par semaine. Et c'est pour moi une merveilleuse pratique de retour sur le corps. Et de... Alors hier, Madame Jung nous a guidés, vous a guidés, avec un scan corporel, je pense. Et, mais il n'y a rien de tel que les mains d'une bonne massothérapeute ou d'un bon massothérapeute pour nous aider à identifier nos points de tension dans le corps. Alors, si vous, si ça vous tente, je peux vous guider dans un tour de massothérapie en Thaïlande ou sur le bord de la mer. Non? Oui? Okay. Mais lorsque je vous ai parlé l'an dernier, lorsque nous avons appris les quatre fondements de la pleine conscience et que j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de la pleine conscience du corps dans le corps, je me suis aperçu que ma capacité de body scan s'est améliorée avec l'aide des massothérapeutes. Alors donc, c'est une invitation. Alors comment ça va physiquement? Je sais que je vous ai conseillé, je sais que je voulais me le donner comme pratique. C'est d'être toujours à l'écoute de mon corps. Et lorsque mon corps me fait mal, je prends des médicaments pour le faire taire. Alors donc, je suis très mauvais enseignant parce que je ne pratique pas ce que je dis. Mais une chance qu'on a ces médicaments parce que sinon, ce serait tellement insupportable. Alors donc, il y a le physique et puis il y a aussi le moral, le mental. Alors lorsqu'on je dis, je me dis comment ça va physiquement, il y a ces choses-là. Lorsqu'on parle du mental, de quoi on parle? Alors ce matin, vous avez lu ensemble, on a récité ensemble le cœur de la Prajnaparamita. Et vous avez entendu parler des cinq skandhas. Alors lorsqu'on parle des cinq skandhas, on passe en revue ces cinq skandhas pour pouvoir répondre à cette question. Comment ça va? Comment vont mes sensations? Comment vont mes perceptions? Comment vont mes formations mentales? Comment va ma conscience? Et lorsqu'on répond à ces cinq, en examinant comment vont chacun ces cinq skandhas, nous venons de pratiquer la méditation de pleine conscience. Et la méditation de pleine conscience, c'est cette méditation qui nous permet d'être là, présent et au courant de tout ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Comment ça va? Encore ce matin, grâce à la présence de Lily, à la visite de Lily, on s'est parlé de cette pratique. Il y a une autre réponse qui m'est venue avec le « Comment ça va ?» La chanson, c'est un vieux poème, un poème que nous aimons beaucoup. C'est un poème qui est écrit par notre maître. Et ça s'appelle « La bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle, c'est à chaque fois que je me pose cette question, ça me revient. C'est la merveilleuse réponse que la pratique de la pleine conscience nous rappelle constamment, toujours, que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Que chaque instant qui nous est donné est un miracle et qu'il n'y a rien de mieux, que nous ne pouvons rien faire de mieux que d'être là pour le reconnaître afin de pleinement la mériter. Et c'est cela la bonne nouvelle. La vie est belle. Quoi qu'il nous arrive, même avec mes quatre côtes brisées, la vie ne peut pas être mieux qu'elle est tout de suite maintenant, ici. Alors n'est-ce pas merveilleux de recevoir cette bonne nouvelle à chaque instant? Il n'y a pas un instant, il n'y a pas une occasion, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un moment où je pense que j'ai le droit de dire que ce n'est pas le meilleur instant de ma vie. Parce qu'à chaque instant, ce miracle se produit. Ces miracles sont en train de se produire. Et chaque instant qui nous est donné est un instant de bénédiction, est un grand don de la vie. Et c'est cela que j'appelle le miracle de la pleine conscience. Le miracle de la pleine conscience qui consiste à nous rappeler que les miracles sont toujours en train de se passer et qu'il nous suffit de revenir à l'instant, de revenir à notre respiration pour pouvoir y être et pleinement le goûter et le mériter. Et c'est cela la bonne nouvelle que je voulais vous partager ce matin encore et que j'essaie de me rappeler en me posant ces questions aussi souvent que je le peux. Et lorsque je peux me poser cette question et que je peux me donner la chance et le temps de m'arrêter pour pouvoir faire le bilan, faire le décompte, la réponse est là. La vie est belle, elle est merveilleuse et j'en suis reconnaissant. Et cette reconnaissance que j'éprouve ne fait qu'augmenter la joie et le bonheur que je ressens. Et la gratitude grandit et le bonheur grandit à chaque fois. Hier, je vous avais parlé de mon observation de la pratique que j'ai pu constater au Vietnam et en Asie et comment elle est différente de ce que je constate de la pratique en Amérique, au Canada, à Montréal. Nous sommes en train d'apprendre le sutra du lotus, c'est-à-dire que toutes les paroles que je dis sont empreintes de cette, ou bien sont supportées par cette base. Et donc, ça me permet de pouvoir parler très librement, sans discrimination. Alors lorsque j'ai l'air de faire des comparaisons, ce sont des comparaisons mais qui sont non discriminantes. Ce sont des comparaisons pour nous permettre d'apprendre et d'avancer. C'est complètement dénué de jugement. Alors ne m'accusez pas de... C'est juste une constatation et des... Merci pour votre générosité. Je vais me permettre de retourner un peu en arrière. La bonne nouvelle, c'est que la vie est belle. Et si nous ne sommes pas convaincus, ou bien si nous n'y croyons pas encore, parce que les conditions ne sont pas toutes là, nous avons aussi des pratiques qui nous permettent de pouvoir renforcer cette vision, ou bien cette croyance. Et le poème parle du miracle des formes et des couleurs. Et il nous suffit de pouvoir revenir à nos yeux et pouvoir voir que nous pouvons encore voir, que nous pouvons encore pouvoir distinguer des formes et des couleurs. Et juste nous imaginer ce que pourrait être notre monde si nous n'avions pas nos yeux qui nous permettent de pouvoir vivre, voir toutes ces merveilleuses choses que nos yeux sont en train de nous dévoiler. Et mon maître appelle ou bien qualifie nos yeux de clés qui nous ouvrent les portes du paradis, le paradis des formes et des couleurs. Alors, si avoir des yeux en bonne santé qui nous permettent encore de pouvoir voir les belles couleurs et les belles formes, de pouvoir voir le ciel bleu, de pouvoir voir les grands pins bleus, qu'attendons-nous pour être heureux? Si juste cela ne nous suffit pas, qu'attendons-nous? Et de la même façon, nous avons encore des pieds qui nous permettent de pouvoir marcher. Nous avons encore des oreilles qui nous permettent de pouvoir entendre les belles chansons comme « Comment ça va ?» etc. Alors les conditions essentielles de notre bonheur sont toujours là. Et il nous suffit de revenir avec notre respiration pour pouvoir toucher à toutes ces merveilles qui sont en train de se passer, pour reconnaître que la vie nous aime et que le peu d'amour que nous pouvons toucher, c'est quand même juste une petite partie de tout l'amour qui est en train de nous envelopper et de nous supporter. Rechercher l'amour alors que nous sommes en train de nager dans cet océan d'amour, pouvoir le reconnaître à partir de cette petite dose que nous pouvons entrevoir et à partir de cette perception, pouvoir ouvrir et voir ce qu'il y a derrière. Ce que je viens de vous parler, c'est une image aussi que j'ai entendu, lu, je ne sais plus comment, d'une dame qui était dans son appartement et qui passait ses journées dans la noirceur jusqu'à un certain moment où elle s'est levée et elle s'est aperçue qu'il y avait dans ses rideaux un trou à cause de, je ne sais pas, des mites qui ont fait un trou dans son rideau, puis là, il y a comme un rayon de lumière qui est rentré. Alors, en percevant ce rayon de lumière, elle s'est aperçue que la vie n'était pas seulement noire, mais qu'il y avait cet éclair qui était rentré. Et à partir de cet éclair, elle a compris que derrière le rideau, elle a ouvert le rideau pour pouvoir découvrir un ciel bleu rayonnant. Alors des fois, quand nous sommes dans des situations désespérées de noirceur et que nous avons un ami qui nous tient la main pour nous rappeler que ce n'est pas seulement noir, cette pratique de comment ça va lorsque nous sommes dans des situations non souhaitées peut nous permettre de nous raccrocher à ce rayon pour pouvoir nous rappeler que au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. Et c'est aussi une leçon que je me rappelle à chaque fois que je prends l'avion. Mais vous savez que des fois, on décolle et il fait pas beau. On a peur. Mais aussitôt que l'avion dépasse les nuages, le ciel est bleu. Et lorsque nous sommes ici, sur Terre, il peut faire gris comme aujourd'hui, il peut neiger, il peut grêler, il peut faire tempête. On oublie que au-dessus des nuages, par-dessus les nuages, le ciel est toujours bleu. Alors ce sont toutes ces choses-là que je voudrais me rappeler et que ces retraites m'aident à ne pas oublier le miracle de la pleine conscience pour me rattacher, pour me garder avec la pratique qui me permet de ne pas perdre de vue le ciel bleu au-dessus des nuages. Comment ça va? Est-ce que la pleine conscience appartient au bouddhisme? Question que j'ai reçue dans la cloche. Bien sûr. Ben, quelle autre réponse voulez-vous que je donne? Oui. Êtes-vous d'accord? Donc oui et non. Non, pourquoi je dis oui? Bien sûr, c'est toujours dans le contexte du Sutra du Lotus. Parce que selon le Sutra du Lotus, il n'y a qu'une seule voie. Et le bouddhisme est une de ces voies. Et le bouddhisme est aussi toutes ces voies. Et je parle dans une chapelle chrétienne. Je me sens vraiment dans la demeure du Seigneur. Et je sais que le Seigneur... Non, je pense que je ne vais pas m'aventurer plus loin. que le Seigneur est un Bouddha. Le Seigneur est un être éclairé, éveillé. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Alors je vais dire que le Bouddha est Dieu. Parce que Dieu est une manifestation de l'Esprit divin dans tout ce qui est. Et si Bouddha est une manifestation de Dieu et que Jésus est le Fils, Jésus et Bouddha sont des frères. Et ils se sont apparus en différentes circonstances, pour pouvoir répondre aux besoins des enfants, des fils de Dieu à ces différents endroits et à différentes périodes. Jésus était apparu dans l'an zéro. Bouddha Sakyamuni était apparu au 6e siècle avant. Et plusieurs prophètes l'ont précédé et plusieurs autres l'ont succédé ou suivi. Certains étaient blancs, d'autres étaient noirs. Certains venaient de familles princières, d'autres venaient d'origine très humble. Certains se sont manifestés comme des motards, des Hell Angels. Et c'est aussi cela, le message du Sutra du Lotus. L'universalité des bodhisattvas qui ont la capacité de pouvoir se manifester là où le besoin est. Et lorsque le besoin de se manifester est celui d'une mère, tendre et gentille dans sa robe blanche, elle apparaît comme une mère. Quand les circonstances demandent qu'il se manifeste comme un bandit, le bodhisattva peut apparaître comme un bandit pour pouvoir faire le travail qu'il a à faire. Je voudrais vous raconter une histoire de famille. Mes enfants ont maintenant 25 et 23 ans. Donc il y a plus de 20, d'une vingtaine d'années. À leur naissance, mon maître était venu souvent à Montréal. Nang Mai était ma fille aînée, était née quelques jours, 10 jours peut-être, avant la venue de Thaï. Et quand Thaï était arrivé à Montréal, il voulait la voir, donc on le lui a apporté et elle a pris dans, il a bercé et chanté des chansons, des très belles chansons d'enfants pendant longtemps. Et une de ces chansons, c'est cette chanson douce. Ma femme, comme maman, était très fière et très heureuse que notre fille ait eu les soins et l'attention de notre maître. Et donc, pendant très longtemps, à chaque soir avant de la coucher et au matin au lever, elle lui présentait une photo de notre maître en disant « C'est lui ton maître ». Et donc, ma fille l'aimait beaucoup parce que par cette présence. Et souvent, elle lui donnait des becs sur la photo. Mais quand elle avait 4 ans, mon maître était revenu. Quand ma Nagma l'a vue, elle n'est pas allée l'embrasser comme on s'attendait, mais elle courait dans l'autre direction parce qu'elle avait peur. Il courait après. Il en a parlé lors d'un Dharma Talk quelques années après. Et ce qu'il a dit, c'est que l'image ou bien la notion que nous avons de quelqu'un ou de quelque chose est très différente de la réalité. Alors l'image que ma fille pouvait avoir de notre maître par les paroles, par les images, par l'action avec la photo, ne correspondait pas du tout avec la personne qu'elle a vue quelques années après. Maintenant, est-ce que ce qu'elle pensait et puis la personne réelle, c'est laquelle qui est? Je ne sais pas. Et ce qui m'amène à vous raconter l'histoire, c'est que la conception, ou bien la croyance, ou bien l'idée que vous pouvez avoir de Bouddha ou de Dieu peut être très différente de ce qu'elle peut être. Et c'est pour ça que nous devons être très prudents sur nos perceptions et sur nos croyances. Et je sais que si le Bouddha était assis ici avec nous, dans cette salle, qu'on ne le reconnaîtrait probablement pas, même si nous passons notre vie à prier et à appeler son nom. Et que ça prend des yeux de Bouddha pour pouvoir reconnaître un Bouddha. Et la forme du Bouddha et les apparences du Bouddha peuvent être très décevantes. Parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir le reconnaître. Et c'est cela le sutra du lotus. Très profond et merveilleux. Je peux parler de la dévotion. Je vous ai parlé de la pratique au Vietnam. La plupart des pagodes au Vietnam organisent des soirées de récitation du sutra du lotus. Et les pratiquants se rassemblent à chaque soir pour 2 heures pour réciter ce volume au complet. Ils commencent, ils le font chapitre par chapitre. Puis lorsqu'ils arrivent au dernier chapitre, ils reprennent au premier. Ils le font religieusement, chaque soir. Et c'est comme ça qu'ils apprennent le sutra du lotus. Je vous mets au défi de le lire. Et je sais que la plupart d'entre vous vont lâcher à la 5e page. Et c'est cela la différence entre la pratique en Asie et la pratique en Amérique. C'est aussi la différence entre ma pratique et la pratique de mes parents et de mes grands-parents. Parce que j'ai cette confiance en moi, cette arrogance, je dirais, de mon intelligence. Et c'est très facile pour moi de dire déjà vu, déjà entendu, déjà écouté, what's next? La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres choses après. Et hier, je vous ai parlé des 84 000 enseignements. Mais 84 000, ce n'est plus le décompte actuel, parce qu'on pourrait en trouver des millions d'autres si on en faisait le répertoire. Alors, le what's next is endless. Je ne sais pas d'où me vient aussi cette avidité d'en savoir plus. Et lorsque je vais dans une retraite ou dans un cours, je veux apprendre des choses nouvelles. Et je ne peux pas vous dire c'est quoi la meilleure façon de faire. Je viens juste de vous parler de la différence que j'ai constatée entre ces deux choses. Pire, les écoles japonaises ne récitent même pas tout ce truc. Ils ne font réciter que 6 mots. Et je ne parle pas japonais, donc je ne pourrais pas vous les dire. Mais ils font juste dire vive ou hommage au sutra, au merveilleux sutra. C'est tout ce qu'ils récitent. Comme un merle, comme un perroquet, comme une cassette. Et ils font juste répéter cela. Namo yufab lihuan. Namo, hommage. Yufab. Merveilleux dharma, lingua, fleur du lotus, kun sutra. Et c'est cela la prière qu'ils font. Comment devenir un être éveillé? Hier, je vous avais parlé de la pratique et je vous avais dit que les enseignements, si on veut les apprendre ou bien si on veut les étudier ou bien si on veut les lire, on peut passer plusieurs vies à le faire. Mais que je ne pense pas que ça soit, que ça puisse répondre à cette question, comment devenir un être éveillé, à moins que nous le mettions en pratique. Dans notre centre, dans notre école, dans notre édition, nous avons un maître très compétent et je n'ose pas trop parler de mon maître, mais c'est le plus merveilleux des maîtres parce que c'est le mien. C'est un être très intelligent, c'est une personne qui est aussi très curieuse. Et c'est un... Je n'arrive pas à trouver les mots, mais il a fait beaucoup d'analyses comparatives entre les différentes versions et enseignements pour distiller cet enseignement dans ce que nous appelons maintenant la pratique de pleine conscience. Et lorsque je pratique ces enseignements et que je lis des textes, je peux voir un peu d'où ça provient. Et c'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je peux vous dire que c'est vraiment un concentré de tous les grands enseignements bouddhistes se retrouve dans des gathas aussi simples que j'inspire, je me calme, j'expire, je souris, ici et maintenant. On y retrouve la sagesse et les enseignements du Sutra du Lotus. On retrouve celui de l'ornementation fleurie. Les plus grands sutras se retrouvent dans les chansons très simples, dans les gathas les plus simples, et que nous n'avons pas besoin de refaire le travail qu'il a fait. Et que si nous pouvons mettre en pratique ces enseignements très simples, mais comment riches et profonds, nous n'avons besoin de rien d'autre que de cela. La pratique de l'arrêt et de la vision profonde, la pratique de l'arrêt avec la respiration consciente, la pratique de la marche en pleine conscience, la pratique des repas dans la pleine conscience, la pratique du body scan, la pratique des 16 exercices de respiration, les 4 fondements de la... Il n'y a rien d'autre que nous avons besoin. Et à partir de ces enseignements très simples, lorsque nous les mettons en pratique, nous pourrons utiliser cette vision, la vision qui nous provient de notre propre pratique pour pouvoir éclairer et comprendre très facilement tous ces enseignements. Je ne suis pas je ne trouve pas le mot, quelqu'un qui analyse les textes, comment vous l'appelez? Ma mère est une non-bouddhiste. Et lorsque j'ai des conversations avec elle, elle est très surprise de ma compréhension des sutras dont elle parle. Des sutras que je peux entendre pour une première fois et tout de suite comprendre. Parce que la compréhension analytique ou la compréhension rationnelle, raisonnable, est très facile lorsqu'elle est supportée, lorsqu'elle est éclairée par la pleine conscience. Et par la pratique de la pleine conscience, et avec la lumière de la pleine conscience, nous pouvons éclairer et comprendre ces textes très facilement. N'essayez pas de comprendre par les mots. Ou bien essayez, puis bonne chance. Donc la façon la plus facile, c'est de la pratique de l'arrêt et de la respiration. Utilisez cette énergie de pleine conscience que nous rapporte cette pratique pour pouvoir éclairer nos propres difficultés dans notre propre vie. Et lorsque nous avons fait ce travail, lorsque nous faisons ce travail, les visions et l'intelligence que nous avons développées par cette pratique peut nous permettre de pouvoir utiliser cette torche et cette compréhension pour éclairer tout ce qui est, même les textes les plus compliqués, et comprendre. Alors, comment devenir un être éveillé? Très facile. Respirez par le nez et marchez avec vos pieds. On peut marcher sur sa tête, mais là, je préfère le laisser aux acrobates de cirque. Et c'est un miracle que de pouvoir marcher sur ses pieds, sur cette terre, lorsque nous le faisons dans la pleine conscience. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Il nous reste 15 minutes pour 2-3 questions, si vous en avez. Il y avait beaucoup de contenu aujourd'hui. Je m'excuse, mais je me suis rattrapé pour mon absence. Alors donc, je suis ouvert pour les questions, si vous en avez.
Je suis nouvelle dans la pratique et je me pose des questions en me disant, en s'intériorisant toujours sur soi, en étant toujours à l'intérieur de soi, c'est complètement à l'opposé de ce que j'ai appris quand j'étais jeune, d'être toujours ouverte aux autres, d'être toujours les autres avant soi, de toujours penser aux autres. Alors, ça m'amène des fois à me poser la question, est-ce que ça devient de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du nombrilisme? Je sais que c'est difficile de séparer les deux. Alors, j'aimerais ça que vous me donniez votre avis là-dessus. Merci.
Je suis prêt à vous donner mon avis, et c'est mon avis personnel. Et toute ressemblance avec les... Non. Comment on peut dire cette phrase-là, toute ressemblance avec des êtres n'est que... Je ne vais pas vous le dire encore. Mais des fois, Lily vient, décidez-vous, est-ce que c'est blanc ou noir? Pourquoi hier vous avez dit à gauche, puis aujourd'hui vous dites à droite? Alors, donc, je vais vous donner la même réponse. Alors, je suis en train de vous inviter à revenir à l'intérieur parce que vous étiez trop à l'extérieur. Et lorsque vous seriez trop à l'extérieur, je vais vous dire, parce que vous êtes trop à l'extérieur, je vous invite à revenir. Puis lorsque vous serez pris, puis complètement à l'intérieur, je vous dis, hey, pouvez-vous sortir un peu? Donc, c'est juste cela. En fait, c'était une réponse rapide et simple. Mais la vraie réponse, c'est que on ne peut pas s'occuper des autres si on ne sait pas comment s'occuper de soi. Et lorsque je m'occupe de moi, je le fais parce que je sais que si je ne le faisais pas, sur qui je peux compter pour le faire? Et que si je ne pouvais pas prendre soin de moi, comment pourrais-je prendre soin des autres si je suis en mauvais état ou bien si je ne suis pas à mon meilleur? Et lorsque je m'occupe de moi, je m'occupe de ce moi qui est beaucoup plus grand que le moi que vous pouvez percevoir. Parce que je sais que beaucoup dépendent de moi, que je le veuille ou non. Et que si je ne suis pas à mon meilleur, je ne peux être d'aucune utilité. Je sais que ma famille compte sur moi et a besoin de moi. Et je sais que je dois faire tout ce que je peux pour me préserver et pour être en meilleure santé ou bien au meilleur que je peux être pour eux. Et c'est un exemple très limité de ce que nous pouvons être pour à chaque place où nous sommes, pour tout ce qui est autour de nous, pour tous ceux qui sont autour de nous. Un enseignement que mon maître nous rappelle souvent aussi et qui provient de ses voyages en avion, c'est celui de du masque oxygène. Lorsque vous prenez l'avion, on vous donne ce message de sécurité avant le décollage. Et on vous dit, si vous avez un enfant assis près de vous, ou bien quelqu'un qui a besoin de soins, il faut que vous mettiez votre masque avant de prendre, de vous occuper de l'autre. Alors, donc, c'est dans ce sens-là que nous voulons pratiquer le retour en soi et prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin de notre plus grand soi. Et notre plus grand soi inclut tout ce dont nous dépendons et tout ce qui dépend de nous. Et dans notre vision de l'inter-être, nous contenons et nous sommes tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous entoure est aussi en nous. Alors en s'occupant de nous, on s'occupe de tout ce qu'il y a en nous et autour de nous aussi. C'est clair. Merci pour la question. Il y a une autre question? Je pense que les deux doivent se compléter. Et souvent, j'ai reproché à nos aînés de pratiquer sans comprendre. Et je pense qu'une bonne compréhension des sutras est importante. Mais que la bonne compréhension ne suffit pas. Et qu'il s'apprend cette composante de dévotion et de croyance. Et c'est ce dont je voulais aussi nous parler, mais à cause du manque de temps. Mais pour que cette pratique soit efficace ou bien puisse porter ses fruits, ça prend une croyance et ça prend une dévotion. Il faut croire, il faut y croire. Juste comprendre ne suffit pas. Et autant j'avais sous-estimé ou bien même médit la pratique des récitations. Autant j'y trouve maintenant la force et la profondeur. Mais ça doit être accompagné d'une compréhension et d'une pratique. Alors lorsque nous pouvons dire Namo Yofablinghaken, on peut les dire comme des mots ou bien comme un mantra sans sens, mais lorsqu'on comprend le sens et lorsqu'on évoque ce nom et que toute la sagesse et les enseignements sont nourris ou sortent avec cette évocation, nous nourrissons et nous arrosons cette germe de compréhension que nous avons avec une première lecture. Et lorsque nous le faisons de cette façon-là, cette compréhension grandit et fleurit. Et chaque fois que nous le récitons, ça force cette graine ou cette pousse à sortir de notre conscience et à être exposée à la lumière. Et c'est comme ça que cette première compréhension que nous pouvons avoir est arrosée. Et c'est ça qui peut apporter l'éveil dont nous parlons. Alors, une première compréhension, c'est une graine qui vient de fleurir. Mais la graine qui vient de fleurir, si on s'occupe de notre graine, ça va être encore une autre pousse, mais la pousse qui n'est pas entretenue va mourir et va retourner à l'état de latence. Alors cette pratique de répétition, c'est favoriser la plante, la pousse qui vient de sortir et de germer à se renforcer. Et lorsque nous sommes dans un temple ancien où il y a déjà l'énergie de tous les grands maîtres, où il y a l'énergie de toute cette communauté qui récite ensemble, c'est difficile à faire lorsque nous sommes tout seuls et surtout lorsque nous utilisons le filtre de notre raison. Parce que lorsque nous travaillons avec cette compréhension textuelle, nous pouvons comprendre, mais ça nous coupe ou bien ça ne connecte pas avec la partie de notre alaya, la partie profonde, qui, elle, a besoin de la transformation et qui, elle, la base de notre être. Alors maintenant, en réponse à la question, il faut que nous combinions ces deux approches et c'est ce que mon maître fait de façon merveilleuse. Il nous l'explique en profondeur. Il nous donne des pratiques très simples. Il nous donne des petits gâteaux avec lesquels nous pouvons pratiquer. Alors nous commençons par écouter les enseignements, par lire les livres qu'il écrit, pour avoir cette compréhension, mais ne pas s'arrêter là. Et utiliser la pratique qui est finalement des outils et des techniques très simples qui nous permettent de pouvoir alimenter et favoriser la germination et la croissance de cette compréhension que nous procure la lecture de ces livres. Alors lorsque nous sommes ensemble et que nous lisons des extraits ou bien que nous chantons, ou bien que nous, ce sont toutes des façons qui nous permettent de pouvoir faire ce que nous ne voulons pas faire parce que nous manquons cette croyance et cette dévotion que les Asiatiques ont parce qu'ils sont nés avec. Alors d'un côté, ils devront développer cette capacité d'analyse et de compréhension et non pas juste avoir un blind faith comme ma grand-mère le chantait, je chante parce que ma grand-mère le chantait. Mais y ajouter la compréhension que nous pouvons avoir, mais poursuivre cette pratique qu'ils avaient. Et je pense que c'est ça la meilleure façon de faire. Merci.